Biodiversité.
Pollution. Paix.
Parce que pour faire avancer les idées, ben, il faut les brasser. Cette semaine à DRM Environnemental, un spécial testostérone en l'absence de Sofiane Legendre. Première heure de la revue de l'actualité, Kyoto avec Stephen Gilbo de Greenpeace, on parle d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre au Québec, Hydro-Québec qui se réveille, des cris qui sont dans le vent avec l'éolien, la rivière Magpie qu'on veut harnacher, le lien trafic, crise cardiaque, état des forêts du Québec, perte de biodiversité mondiale, OGM fédéral, beaucoup plus. Deuxième heure, Philippe Daigle, Monsieur Philippe Daigle, naturaliste au Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, vient nous parler de Saint-Laurent, évidemment, Bureau d'audience publique en environnement sur les relevés sismiques, et finalement, on termine avec nos classiques coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Eh bien, en remplacement de Sofiane Legendre, rassurez-vous, ce n'est pas Jeff Filion, mais bien Patrick Bonin, aujourd'hui avec vous au micro, en compagnie de mes chaleureux collègues, et j'ai nommé Hugo Lachapelle, Nicolas Mainville, qui devrait arriver, et Nicolas Milo. Nous avons toujours Étienne Côté-Paluc à la régie. Je vous rappelle que des règlements environnementaux, on parle d'actualité environnementale. On a également un site web au www.radiodelirium.net. Et des nouvelles en environnement, il y en a énormément. Sans plus tarder, on commence déjà à en parler avec Hugo Lachapelle qui nous parle d'une nouvelle plus ou moins loufoque.
Ben, je pense que pour marquer le coup du spécial testostérone aujourd'hui, je vous ai tiré un petit article du Journal Montréal qui relatait comment Pamela Anderson implore la reine d'Angleterre d'arrêter d'utiliser la fourrure des ours pour faire des casques de la garde royale britannique. Elle n'a par contre pas commenté sur ses séances de photos en petite tenue au bord d'un foyer sur une peau d'ours.
Sacré Pamela. Eh bien, plus sérieusement, je pense qu'il faut absolument cette semaine qu'on parle du protocole de Kyoto. Vous le savez tous, le protocole de Kyoto, ça s'en vient. Eh bien, paraît-il qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, Nicolas Milo, en Russie.
Eh bien oui, la Russie, avec tout ce qu'on lui connaît de solennel, a décidé d'accepter de ratifier le protocole de Kyoto. Vous savez que le protocole de Kyoto entrera en vigueur avec cette signature, étant donné qu'au moins 55 pays, représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, auront ratifié le protocole. Eh bien, c'est fait, la Chambre des représentants du Parlement russe a accepté de ratifier le protocole. Il ne reste donc qu'à M. Poutine, notre cher premier ministre russe, ou président russe plutôt, à entériner l'accord et à faire en sorte que celui-ci rentre en application.
Eh bien, rangez le caviar au placard, et nous avons eu l'occasion de s'entretenir plus tôt cette semaine avec Stephen Gilbo, qui est le responsable de la campagne climat-énergie de Greenpeace Canada, un haut spécialiste, entre autres, du protocole de Kyoto pour assister à plusieurs réunions internationales. Et on lui a demandé, en fait, qu'est-ce qui a fait que les Russes ont finalement décidé de ratifier ce fameux protocole?
La Russie le ratifie principalement pour des raisons de diplomatie internationale. Les Européens s'étaient engagés à favoriser l'accession de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce. Monsieur Poutine a décidé de faire un retour d'ascenseur et il a déclaré, en fait, là, à peu près dans ces termes-là, comme la Russie a fait quelque chose pour nous, l'Europe a fait quelque chose pour nous, nous allons faire quelque chose pour la Russie, pour l'Europe, pardon.
Est-ce qu'il y a un intérêt économique évident pour la Russie à l'intérieur de cette ratification-là?
Fort probablement, quoique ça va beaucoup dépendre de la croissance économique et donc de l'augmentation de la pollution de la Russie dans les 10 prochaines années. Mais on peut effectivement penser que les Russes ont beaucoup à gagner d'un point de vue économique par la ratification du protocole de Kyoto, puisque des compagnies canadiennes, européennes, japonaises, néo-zélandaises voudront probablement investir dans le système énergétique russe qui tombe en morceaux, de façon à créer les fameux permis de carbone. Ces mêmes permis-là qui pourront ensuite être vendus sur des bourses internationales ou utilisés par ces mêmes compagnies-là ou même dans certains cas par des pays pour permettre d'augmenter leurs émissions humaines.
Eh bien, Stephen Guilbeault qui nous parlait de choses quelque peu complexes à première vue, mais qui, si on laisse la parole à Nicolas Mainville, il devrait pouvoir nous expliquer ça. Ces fameux permis échangeables et tout ce qui est alentour de ces échanges d'énergie-là, de crédit de carbone, c'est complexe, Nicolas.
Assez complexe. D'ailleurs, ça devient vraiment le centre du protocole de Kyoto. En fait, on commence à créer une espèce de marché du carbone, un marché de droits de polluer. Puis ce qu'on est en train de mettre en branle, en fait, c'est vraiment... trois mécanismes centraux qui vont devenir de plus en plus à la sellette sur les discussions sur les changements climatiques. Donc les trois mécanismes centraux, c'est les permis d'émission. Donc tout ce qui est échange de carbone. Donc un pays qui pollue plus va pouvoir acheter un crédit à un pays qui pollue moins. Et puis bon, il y a certaines choses controversées par rapport à ça, mais bon, on se rend compte qu'on va vraiment créer une bourse mondiale du carbone. Le deuxième aspect, excusez, j'arrive en courant.
Ouais, pardon, pauvre Nicolas. C'est une bonne chose, là.
Excusez-moi, la grippe en plus. Bon, le deuxième mécanisme, c'est le développement propre. Donc, un pays qui est dans le pétrin, point de vue émission de gaz à effet de serre, pourra aller développer des énergies propres dans des pays en voie de développement. Donc, par exemple, construire un champ d'éoliennes dans un pays en voie de développement pour essayer de remonter sa cote, point de vue émission de gaz à effet de serre. Puis le troisième mécanisme, c'est la mise en œuvre conjointe. Donc, des pays qui font déjà partie de Kyoto, du protocole, et qui vont pouvoir s'échanger des projets d'émissions propres, en fait, des projets propres comme tels. Donc, l'exemple des champs d'éoliennes, encore une fois.
Et évidemment, on parlait de la question d'argent. Il y a énormément d'argent potentiel. Le courrier international de la semaine passée, que je vous recommande fortement, ou sinon, allez voir sur leur site Internet, on parle beaucoup du protocole de Kyoto. Et on chiffre entre 10 et 20 milliards les profits potentiels pour la Russie, justement, avec ces fameux crédits échangeables. Ça, c'est pour l'international. Si on revient un petit peu plus avec nous, le Canada, ou plutôt avec le Canada, à savoir qu'est-ce que ça va changer de façon concrète pour le Canada. Stephen Guilbeault, toujours de Greenpeace, qui nous renseigne là-dessus.
Qu'est-ce que ça change concrètement pour le Canada qu'on ait finalement ratifié ce protocole-là?
Je pense que ça change beaucoup de choses parce que depuis que nous avons ratifié, le Canada a fait très peu de choses en termes de la mise en œuvre du protocole de Kyoto. En fait, on n'a pratiquement rien fait. Malgré un plan d'action qui avait été présenté dans plusieurs incarnations différentes, là, mais un plan qui avait finalement été adopté par le gouvernement fédéral un peu avant la ratification. Rien ne s'est fait. On attend toujours, par exemple, la loi qui forcerait les grands émetteurs canadiens. Donc, on parle d'environ 600 des plus importants pollueurs d'un point de vue du CO2 au Canada, à qui on demanderait de réduire leurs émissions. Ces compagnies-là représentent près de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre au Canada. Et pourtant, on ne leur demande que contribuer dans le cadre d'un programme pour à peu près le quart de l'effort. Et la loi qui permettrait de mettre ce programme-là en œuvre, si vous voulez, n'a toujours pas été annoncée. M. Dion a dit qu'il n'avait pas l'intention de le faire pendant cette session parlementaire.
Parlant de M. Dion, on a
notre cher
M. Dion, ministre fédéral de l'Environnement. Plusieurs nouvelles qui sont sorties la semaine passée, dont quelques-unes que son nom revenait souvent, et quelques conflits avec l'ancien ministre de l'Environnement, M. Anderson. Donc, Nicolas Milot, tu t'es renseigné là-dessus. Qu'est-ce qu'on en retient?
Ben oui, David Anderson, donc je pense qu'on commence à s'ennuyer un petit peu, pas mal, là, beaucoup.
Qui aurait dit?
Eh bien, qui a fait une sortie, je dirais pas une sortie des boulamites, parce que ça fait pas si longtemps que ça qui est sorti du monde public, mais dans le fond, une sortie assez fracassante pour dénoncer les agissements de son ancien parti d'allégeance, le Parti libéral du Canada. Dans le fond, ce qui reproche grandement à la fois à M. Paul Martin, premier ministre, à Stéphane Dion et aussi à John Efford, ministre des Ressources naturelles, eh bien, c'est dans le fond que, alors qu'un gouvernement est en train de lutter ou de soi-disant lutter contre les changements climatiques, on rappelle qu'un programme quand même de 3,6 milliards à l'œuvre ou qui devrait être à l'œuvre au Canada contre les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, le ministère des Ressources naturel, eh bien, agit carrément comme lobbyiste pour l'industrie automobile au Canada, qui est la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre, autant que ça touche le transport de particuliers que le transport général par les camions, donc le transport dans son ensemble. Eh bien, ce que M. Anderson reproche, c'est que autant au niveau du premier ministre que des ministres en dessous de lui, ils sont pas nécessairement en dessous de lui, mais dans le fond, qu'il y a un manque complet de leadership. Stéphane Dion, la semaine dernière, qui proposait que le Canada établisse des normes comme on l'a en Californie pour ce qui a trait à la circulation automobile. John Efford, ministre des Ressources naturelles, pas d'accord avec ça. Ça a même pas pris une semaine à M. Dion pour se ranger en dessous des jupons de M. Efford. C'est un manque flagrant de leadership.
On va voir justement si M. Stephen Guilbeault de Greenpeace, je vous le rappelle, a la même opinion de ce genre de conflit entre les ressources naturelles et le ministère de l'Environnement au niveau fédéral.
M. Dion a affirmé qu'il ne voyait pas l'utilité de tenir un débat sur la question au Canada, à savoir si le Canada pourrait atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, justement en vertu du protocole de Kyoto. Est-ce que vous êtes de cet avis ou vous vous rangez un petit peu du côté de M. Anderson, l'ancien ministre fédéral, qui lui dit qu'il n'y a tout simplement pas de leadership cohérent au niveau canadien?
Je suis tout à fait d'accord avec M. Anderson là-dessus. Il le sait, il était au Conseil des ministres il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de gens au Canada, qui espérait que le protocole de Kyoto allait disparaître, allait s'évanouir dans les limbes. M. Martin est probablement de ceux-là. M. Klein, il l'a dit à plusieurs reprises. Et là, le fait que la Russie ratifie, évidemment, vient détruire leur espoir, parce que le protocole de Kyoto est un engagement à caractère légalement contraignant. Il y aura des sanctions en cas de non-respect. Ces sanctions-là n'ont pas été définies. Elles le seront dans les prochaines années au niveau international. Mais on ne pourra pas faire à semblant qu'on a manqué la cible et dire « Oups, on s'excuse ». Ça ne fonctionnera pas comme ça. On va devoir mettre la main à la pâte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à Ottawa qui ne réalisent pas encore, M. Dion peut-être le premier, l'importance de la tâche à accomplir.
Eh bien, s'ils ne le réalisent pas, ces messieurs à Ottawa, eh bien, ici même à Montréal, nous, on le réalise, on a des chiffres à l'appui, on a des faits qui nous font dire que le Canada est en train de manquer ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est Nicolas Milot qui nous en parle.
Grammainville, en fait, mais impressionnant les chiffres, en fait. Vous saviez qu'avec Kyoto, on est supposé descendre à 6% sous les niveaux de 1990, bon, dépendamment des pays, mais ici au Canada, c'est 6%. Bien, malheureusement, depuis 90, on a augmenté de 20,2% ces émissions-là de gaz à effet de serre quand on les comptabilise. Donc, ça change la donne comparé à ce qu'on a ratifié comme tel parce que ça augmente à chaque année. Puis on va vous montrer un petit peu plus tard les statistiques pour le Québec qui sont pas plus réjouissantes.
Donc, ce que tu dis en quelque part, c'est qu'on devrait diminuer de 26% maintenant.
À peu près. Si on fait le calcul exact, 20 plus 6.
Ceci étant dit, on va sûrement avoir l'occasion de revenir avec cette question de Kyoto, d'approfondir le dossier fédéral, justement avec Stephen Guilbeault, peut-être en entrevue éventuellement. Restez à l'affût. Mais on va le laisser conclure là-dessus, à savoir, dans le fond, est-ce qu'on doit être content ou pas de cette fameuse ratification de Kyoto par les Russes?
Finalement, doit-on se réjouir? Doit-on porter un toast aujourd'hui aux Russes qui ont décidé de ratifier ce protocole de Kyoto?
Je pense que vendredi, c'était une journée qui va passer à l'histoire. Je sais que ça peut paraître un peu pompeux, là, mais l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto va changer beaucoup, beaucoup de choses. Va accélérer cette espèce de révolution énergétique qui est à nos portes. C'est pas la première, d'ailleurs. On a connu au cours des 150-200 dernières années plusieurs révolutions énergétiques. On est passé du bois au charbon, du charbon au pétrole. Et là, on se dirige vers les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie. Et l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto va changer beaucoup de choses.
Encore une fois, Stephen Guilbeault de Greenpeace. Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Kyoto, c'est bien beau Kyoto, on fait un petit spécial Kyoto, c'est bien beau le Canada, mais il y a également le Québec dans cette histoire. Je voulais juste vous rappeler que l'hymne que vous avez entendu, c'est un hymne russe. On se demande si c'est resté le même depuis la tombée de l'URSS. Vous ferez des recherches et nous enverrez un courriel à radiodrm.net ou n'importe quel genre de critique, vous êtes très conviés à l'en faire pour nous.
Paraît d'ailleurs que les environnementalistes partout dans le monde ont trinqué de la vodka vendredi soir. C'était... À l'honneur de la Russie.
Et plusieurs l'ont fait sans même le savoir, imagine.
Caviar pour tout le monde et sauce brune et petites crottes de fromage par-dessus.
On se rappelle que le caviar, c'est peut-être pas l'idéal avec les problèmes de sturgeon qui, à quelques endroits, sont en voie de disparition. Mais... Oh là là, retour à la base. Kyoto, Québec, gaz à effet de serre, ça augmente. Les résultats de 2002, Nicolas Mainville, de quoi ça a l'air?
Ben oui, en fait, c'est l'inventaire canadien des gaz à effet de serre de 90 à 2002 qui nous sort des chiffres pas possibles. Vous savez que le Québec avait des super belles statistiques grâce, entre autres, à l'énergie provenant de l'hydroélectricité, qu'on comptabilise pas encore les gaz à effet de serre provenant des barrages hydroélectriques.
Parce qu'il y a des gaz à effet de serre.
Il y a des gaz à effet de serre, ça viendra plus tard. Mais bon, le Québec était toujours assez leader, point de vue émission, gaz à effet de serre, même qu'on était en deçà des niveaux de 1990 en 2001. Par contre, en 2002, ça a augmenté drastiquement. En fait, on est rendu 5,05% supérieur au niveau de 1990. Quand même impressionnant. En un an, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, les questions se lancent à gauche, à droite. Il y a une ministre qui répond que c'est les feux de forêt qui ont augmenté drastiquement. Mais bon, quand on regarde les chiffres de façon un peu plus précise, on se rend compte que dans tous les secteurs québécois, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, ça augmente. La plus haute augmentation, c'est dans le secteur des transports par aviation à l'interne au Québec. 85% d'augmentation, quand même assez impressionnant.
Puis on sait que les avions sont une source importante.
Importante, tout à fait importante. Et puis on parle là, en millions de tonnes équivalent CO2. Là. Donc c'est vraiment des grosses quantités. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que vous savez qu'on a autorisé la construction de la centrale thermique de Bécancour. Augmentation qui devrait être de 1,8 million de tonnes de gaz à effet de serre, soit 1,73% d'augmentation annuellement, extrêmement important à comptabiliser pour ce qui s'en vient dans le calcul Kyoto au Québec.
Peut-être représentatif du fait que le plan d'action québécois pour la réduction d'émissions de gaz à effet de serre date de 2002.
Il n'y en a plus de plan.
Il n'y en a plus, ça va pas bien. Bon, mais quand même, il y a des belles initiatives. On sait que l'éolien est arrivé en force la semaine passée au Québec. Une autre nouvelle encore dans l'éolien.
Ben oui, imaginez-vous donc que les CRI sont sérieusement développés le potentiel éolien de leur région. C'est ce que M. Francoeur du Devoir nous a rappelé en publiant un article où on nous annonçait qu'il avait rencontré lors du 20e congrès annuel de l'Association canadienne de l'énergie éolienne qui a eu lieu mardi passé. Il avait rencontré des chefs CRI et il y avait une forte délégation de CRI qui était sur place. On se demande en fait, au printemps passé, il y avait eu beaucoup de discussions sur l'éolien, sur le développement énergétique au Québec. Et en quelque part, je me suis senti comme si les CRI n'avaient pas eu leur place. Les Autochtones n'avaient pas beaucoup parlé dans un dossier qui, ma foi, devrait les préoccuper beaucoup. On sait quel genre de modifications majeures ça a amené à leur mode de vie, les développements hydroélectriques qu'on a vus dans le nord du Québec. Alors, on se rappelle qu'avec la signature de la paix des Braves en 2002, elle visait entre autres à assurer la prise en charge par les CRI du plein développement économique et communautaire de leurs réserves. Mais comment ça s'est vraiment répercuté concrètement? Là? On n'a pas eu beaucoup d'exemples. Et puis là, on dirait que le chat est en train de sortir du sac. On apprend que le Grand Conseil des CRI lance plusieurs démarches dans la création d'une structure qu'on a appelée le Authority on Energy and Sustainable Development, l'Autorité sur l'énergie et le développement durable, pour évaluer tout l'intérêt et la meilleure stratégie de développement du potentiel éolien dans la région de la baie James. Alors, est-ce qu'on parle de projet CRI complètement, des partenariats avec le privé? Quelles seront les relations avec le fédéral, Québec, Hydro-Québec? Où fera-t-on le développement? C'est toutes sortes de questions auxquelles on veut s'attarder. Alors, ce qu'on constate finalement, par contre, c'est que les CRI s'intéressent à la question de l'éolien parce qu'ils pensent qu'à première vue, ça correspond beaucoup mieux à leurs valeurs traditionnelles et puis que ce type de projet-là pourrait avoir un potentiel de retombées beaucoup très intéressant pour leur communauté. Alors, la news t'a demandé si les Autochtones ne sont pas en train de s'insérer dans le développement de notre nation. Moi, je trouve que c'est une nouvelle très réjouissante.
C'est une excellente nouvelle.
D'autant plus qu'il y a une petite compétition qui s'installe inévitablement entre les CRI et Hydro-Québec. Et on sait que les Hydro-Québec tardent, ne veulent pas se lancer dans l'éolien, ne veulent pas rien faire. Eh bien, si les CRI peuvent le faire à leur place, ça va rester en territoire québécois. Moi, je trouve que c'est une excellente initiative. Et c'est bien mieux que ce soit ça qu'une multinationale quelconque qui vienne rafler tout notre argent.
Eh oui.
Ou notre vent.
Voici 6 bonnes raisons de cesser d'acheter des produits SO. Boycottons SO.
Rousseau nie l'existence des changements climatiques et dépense des millions en propagande trompeuse chaque année pour dénigrer les preuves scientifiques. SO joue un rôle déterminant dans le sabotage des tentatives d'accords internationaux pour combattre les changements climatiques. SO investit peu, pour ne pas dire pas, dans les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire. SO est la plus importante compagnie pétrolière au monde. C'est la compagnie la plus profitable au classement Fortune 500. Des profits de 15,6 US milliards en 2001. Si quelqu'un a les moyens de lutter contre les changements climatiques, c'est bien SO. Et finalement, SO a participé à financer l'élection de George Bush en donnant 5 fois plus qu'Enron. De l'argent bien dépensé. Dès que Bush est devenu président, il a retiré les États-Unis des accords de Kyoto sur les changements climatiques. Exactement ce qu'SO désirait. Boycottons SO et visitez le www.stopso.ca.
Hydro-Québec, Hydro-Québec, on tape dessus, mais peut-être pour la première fois depuis il y a de cela très longtemps, une bonne nouvelle la semaine passée, Hydro-Québec qui se réveille, il commence, en fait c'est probablement le gouvernement d'en haut qui chuchote à l'oreille d'Hydro-Québec, vous devriez faire plus d'efficacité énergétique.
C'est la population d'en bas. C'est
subtil. Eh bien oui, dans le fond, cette semaine, la semaine dernière, Hydro-Québec qui nous arrive avec une deuxième bonne nouvelle en dedans d'une semaine. On avait eu celle de l'investissement dans l'éolien.
On rappelle qu'Hydro-Québec n'investit pas là-dedans, sinon pour ses lignes électriques, et voilà. C'est tout le privé. Juste pour spécifier.
Mais il essaie de nous faire passer ça comme des bonnes nouvelles, quand même.
De leur même part. Fait avoir nous.
Hey! On est contents quand même.
Oui, bien cette semaine, Hydro-Québec, qui dans le fond, à la demande du gouvernement Charest, eh bien, revise ses attentes en matière d'efficacité énergétique et annonce l'augmentation d'un plan qui existait déjà. Alors, c'est pas quelque chose de 100% nouveau, mais il y avait un plan d'efficacité énergétique à Hydro-Québec. Un plan de, je pense, 200 quelques millions, 237 millions, qui visait à économiser 1,5 TWh. Eh bien, on augmente ce plan-là à 994 millions du côté d'Hydro-Québec. Donc, 350 millions répartis dans le milieu résidentiel, 350 dans le secteur commercial et institutionnel, et le reste sera du côté de l'industrie. Je trouve ça un peu faible pour l'industrie, mais bref, c'est leur affaire. On pourra chialer une autre fois. Eh bien,
c'est en un an ou c'est...
Ça, c'est d'ici 2010. Donc, le but, c'est dans le plan d'efficacité énergétique 2004-2010, dans le fond, qui a été renouvelé pour coïncider avec la présente année, eh bien, de monter à 3 TWh, eh bien, les économies qu'on pourrait réaliser. 3 TWh, pour vous illustrer, c'est 180 000 résidences, donc l'ensemble, le chauffage, l'éclairage, que produisent 180 000 résidences québécoises, donc 180 000 résidences qui consomment beaucoup. Eh bien, c'est ce que le nouveau plan de Hydro au Québec, qui devrait être approuvé par la Régie de l'énergie cet automne, devrait permettre en termes d'efficacité énergétique.
Ce qui est intéressant dans ce plan-là, je pense, les réactions de Greenpeace et de la QLPA qui disaient qu'il y aurait le double qui aurait pu être fait. Je ne sais pas si tu as lu ça dans tes nouvelles.
Ben, selon Hydro-Québec, lui-même, ou elle-même, la société elle-même, c'est un hit, et voilà, mais on parle en français. Donc, le potentiel d'économie réalisable au Québec, c'est 8,5 TWh. Donc, ces économies-là représentent 35% du potentiel global d'économie qu'on pourrait réaliser. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est faible? En même temps, comparativement à ce qu'on fait présentement, les économies d'énergie au Québec, c'est pas nécessairement notre bâton, notre nanane. Eh bien, c'est sans doute des efforts qui sont supérieurs à ce que le passé nous avait habitués. Mais il reste que ça va être encore loin de l'ensemble qu'on pourrait faire.
Ben, d'autant plus que je pense que pour changer justement, entre autres, la mentalité des gens, ça va prendre, excusez de le dire, mais pas mal de millions. Parce qu'on n'a pas une mentalité québécoise d'économie d'énergie à la base. On n'a pas ça comme réflexe parce qu'entre autres, l'électricité ne nous a jamais coûté cher. Donc, ça ne s'est pas posé la question. Et juste remettre en contexte également ce milliard environ qui est d'ici 2010. Juste pour vous rappeler...
Qui va coûter à Hydro-Québec.
Qui va coûter à Hydro-Québec, exactement.
Qui rentrera pas dans ses poches.
Ouais, pour une fois, mais il risque de le retrouver quand même. Exactement, c'est sûr qu'il ne le ferait pas sinon. Mais donc, juste mettre ça en comparaison avec les 3,5 milliards par année qu'ils veulent investir dans les 20 prochaines années pour la construction de barrages au Québec. Donc, 3,5 milliards fois 20, faites le calcul rapide. Je suis pas nécessairement impressionné par ce petit milliard. Quoique ça paraît bien dans un journal, une annonce, milliard.
Et aussi, une facette importante qui a été décriée principalement dans l'Office de protection du consommateur ou des organismes axés sur la protection des consommateurs, c'est qu'il ne va pas falloir que ce soit les consommateurs qui finance ce projet-là. Dans le fond, c'est sûr que c'est les consommateurs qui vont financer. Hydro-Québec, ses revenus les tirent des consommateurs. Donc, je pense qu'il faut oublier l'idée que ce ne sera jamais l'argent des contribuables ou des payeurs d'électricité qui va financer un tel projet. Ce qui est important, par exemple, de faire attention, c'est que ce soit pas simplement une hausse de tarifs qui donnerait 1 milliard de plus à Hydro-Québec, qui soit simplement transféré d'une main à l'autre pour avoir accès à ce programme-là. Il va falloir qu'Hydro-Québec aussi fasse les efforts et que ce soit pas seulement, dans le fond, une hausse de tarifs qui fait en sorte que les contribuables ont plus les moyens de payer l'électricité, donc ils en consomment moins et ils payent pour 1 milliard de moins.
Une autre taxe déguisée pour, entre autres, rembourser 1 milliard... diminuer un 2 milliards les impôts.
Donc bref, c'est quoi? On lève notre chapeau, mais juste à moitié?
À peu près. C'est un premier pas, encore une fois, c'est pas assez. Écoutez, on a malheureusement plus de temps pour parler d'Hydro-Québec. On s'en va donc à la musique avec une chanson d'occasion. Vous connaissez Kyoto de Paul-Émile Bazard, peut-être, et on revient par la suite avec l'état de la forêt québécoise, la biodiversité mondiale qui est en péril, les OGM et pas mal plus encore.
J'aimerais voler, quitter ma tête, aller semer partout la fête. Bagdad à vélo, je voudrais respirer l'air de Kyoto. Avant la guerre de l'eau, le hamburger bio, l'air pur en contrebande avant les orgasmes en réseau, avant qu'un bras nous pousse dans le front que l'on est tous. Une poignée dans le dos, les ornières, la stupeur et la fosse. Avant les epsilons, les manipulations, la greffe de bonne conscience avant l'uniformisation. Avant le cancer de l'âme et l'ablation du charme, l'interdiction de l'humour et l'obligation du port d'armes. J'aimerais bien savoir à quoi sert-je. J'aimerais voir une forêt vierge. Je voudrais comprendre pourquoi tout et ne plus rien vouloir du tout. J'aimerais voler, quitter ma tête, aller semer partout la fête. Visiter Bagdad à vélo, je voudrais respirer l'air de Kyoto. Avant que d'avoir honte, que la tension monte. L'eau qu'on ne puisse plus rien faire avant le vrai décompte, avant d'avouer le compte, avec tout ça mes comptes, n'y changez rien vu que ça nous compte, mais bien de rester con, d'aller vouer à l'échec, et mat avant qu'un chèque vaille plus cher que son signataire et sa famille avec, avant qu'on ait détruit, tout jusqu'au dernier fruit, que les lois du marché nous aient totalement abrutis. J'aimerais bien savoir à quoi sert-je, j'aimerais voir une forêt vierge. Comprendre pourquoi tout et ne plus rien vouloir du tout. J'aimerais voler, quitter ma tête, aller semer partout la fête, visiter Bagdad à vélo, respirer l'air de Kyoto. J'aimerais bien savoir à quoi sert-je. Qu'il faudrait croire, belle ou belle, visiter Prague et Tombouctou, Stalingrad et Waterloo. J'aimerais voler, quitter ma tête, aller semer partout la fête.